À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Pierre Fimon, diplomate français.
Premier épisode, dans la famille diplomate, je demande le père. Bonsoir Pierre Fimon.
Bonsoir.
Si j'ai tenu à vous proposer cette série d'À voix nue, c'est d'abord parce que vous avez la réputation d'être l'homme des missions compliquées. Or, 2h30 de discussion avec un diplomate se peut être vu comme une mission compliquée. C'est aussi que votre carrière exceptionnelle peut intéresser les auditeurs et les auditrices de France Culture, même et peut-être surtout celles et ceux qui ne sont pas rompus aux arcanes de la diplomatie, de la médiation en temps de conflit, et plus largement de ce qu'on appelle en bon français le soft power. C'est enfin parce que vous êtes aujourd'hui dégagé des responsabilités et des devoirs qui incombent à votre métier, autrement dit la réserve et la discrétion. Ainsi, c'est librement que vous pouvez parler aujourd'hui, dans la limite bien entendu de ce que vous pouvez révéler. Cela va sans dire. Mais en tout cas, en évitant toute langue de bois, ce sur quoi vous vous êtes engagé auprès de moi. Pierre Fimon, lors de la préparation de ces entretiens, vous m'avez confié que vous ne disiez jamais non. Sauf peut-être une fois, quand vous avez refusé de travailler auprès de Roland Dumas, ministre des Affaires européennes. Vous m'avez dit oui à ces entretiens. Pour quelle raison ?
Parce que tout d'un coup, je me suis dit que on parle beaucoup actuellement du métier de diplomate. Il y a d'ailleurs pas mal de livres qui sortent à ce sujet. Et que notre conversation pouvait être l'occasion d'expliquer peut-être un peu plus, un peu mieux, ce métier, qui est un vrai métier et qui est parfois contesté même. Certains se demandent si vraiment il y a un métier de diplomate. Or, je pense qu'il y a un métier de diplomate, il y a une expertise, il y a un savoir-faire. Et que donc c'était intéressant de pouvoir en discuter. Je voulais juste vous reprendre sur Roland Dumas. Je n'avais rien contre Roland Dumas, au contraire. J'étais très intéressé par... C'était une première occasion de travailler sur les affaires européennes. Mais il se trouvait que j'avais demandé à pouvoir partir pendant quelques mois aux États-Unis dans un centre d'études et que donc je voulais mener ce projet jusqu'à son terme.
Vous avez décliné, mais pas décliné auprès du monsieur en question. On voilà. Rétablit la chose, bien entendu. Après un parcours multiple, extrêmement riche, qu'on va retracer au cours de ces 5 entretiens, on peut d'ores et déjà évoquer quelques-uns des moments les plus saillants. Le poste de directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, au début des années 2000, expérience marquante, qui a été rendue publique dans une bande dessinée fameuse, intitulée Quai d'Orsay, que Bertrand Tavernier a ensuite porté à l'écran, et c'est d'ailleurs Nils Sarestrup qui jouait votre personnage. Le poste d'ambassadeur de France à Washington, de 2007 à 2010, celui de numéro 2 de l'Europe, de la diplomatie européenne, quasi ministre des Affaires étrangères, de 2010 à 2015, et peut-être le dernier en date qui s'est achevé le 24 février 2022, celui de représentant spécial du président de la République, Emmanuel Macron, pour la Russie. Et vous êtes, vous aussi, celui qui a obtenu la libération des journalistes Georges Malbruno, Christian Chesneau, Florence Aubenas, qui étaient otages en Irak en 2004-2005, affaires qui ont eu un retentissement important. J'ai choisi là, dans ce parcours très réducteur, puisque nous allons le voir au cours des 5 entretiens, la diversité est évidemment bien plus grande, mais j'ai choisi là ceux peut-être qui ont eu le plus de retentissement extérieur, qui peuvent dire quelque chose aux oreilles des auditeurs et des auditrices. Est-ce que vous avez envie, dans cette première petite liste, Pierre Fimon, d'en ajouter d'autres qui ont beaucoup compté pour vous ?
Non, pas vraiment. Ce qui me frappe à travers votre énumération, c'est qu'un certain nombre de missions qui m'ont été confiées récemment et que vous n'avez pas citées, comme la question de l'immigration en Europe, ou encore, à un moment donné, travailler à la recherche de la paix au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens, qu'au fond, tout ça, c'est arrivé alors que j'étais déjà à la retraite. C'est qu'au fond, ces missions-là m'ont été plutôt confiées après que je sois parti, ce qui semble indiquer que, au fond, quand on est en activité, dans le cadre de ce ministère, on a des fonctions assez clairement définies, qui vous empêche parfois de prendre un peu de recul et de se lancer dans des missions de ce type. Et je suis frappé de voir que, là encore, on est très souvent amené à demander à des diplomates qui sont un peu à l'extérieur des cadres, en attente d'un poste ou bien à la retraite, pour occuper ces missions très ponctuelles et très particulières.
Pour bien brosser un premier portrait, avant d'entrer dans le vif du sujet, Pierre Vimon, il faut aussi peut-être dire que vous êtes un passionné de jazz, que vous êtes aussi quelqu'un qui aimait beaucoup les négociations marathon. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux, entre le jazz et les négociations marathon?
Non, je ne crois pas. Si on pouvait improviser dans ces négociations marathon, ce serait amusant.
Mais ce n'est pas le cas.
C'est un peu fastidieux, c'est très long et il faut peu à peu, à force d'écoute je dirais de créativité, arriver à trouver des accords. Alors oui, la créativité dans le jazz aussi, c'est important. Et peut-être il en manque un peu aujourd'hui dans notre diplomatie contemporaine. Mais je crois pas qu'on puisse faire un rapport direct entre le jazz et les nuits blanches de Bruxelles ou d'ailleurs.
Le jazz ne vous sauvait pas dans ces cas-là.
Non. Si ça me sauve en dehors de ces réunions pour écouter tranquillement retrouver un peu de sérénité et même de sagesse.
Savoir écouter, c'est le cœur, le point nodal de votre métier.
Je crois quand des jeunes diplomates de temps en temps viennent me voir, me demandent un peu ce que je pense et quelles sont les qualités, je cite toujours l'écoute en premier. Ça m'a toujours semblé que l'un des problèmes, en tout cas parfois de la diplomatie française, c'est d'arriver avec un plan tout fait, des idées tout arrêtées, de les soumettre à ses partenaires et d'attendre qu'ils signent en bas de la page. Alors qu'en réalité, la négociation commence là et qu'il faut savoir écouter et savoir prendre en compte ce que les autres ont à dire, leurs propres intérêts, qui sont souvent divergents des nôtres. Et la diplomatie, c'est comment rapprocher ces différents points de vue. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Savoir écouter et ensuite avoir une bonne analyse, une bonne intelligence de la situation. Comprendre quels sont les rapports de force, si on est en position de supériorité ou d'infériorité. Savoir s'adapter, trouver des alliances avec d'autres. C'est tout ça qu'il faut. Mais la première chose, le point de départ, c'est écouter ce que les autres vous disent.
Est-ce qu'on écoutait beaucoup dans la famille Vimon quand vous étiez enfant ?
Oui, je pense. Il y avait bien évidemment la stature du père, comme dans toute famille, et mon père était un personnage important, qui était lui-même diplomate, enfin qui imposait. Il faisait partie de cette génération de l'entre-deux-guerres. Hein. Mon père est né pendant la Première Guerre mondiale, en 1911, et donc toute sa formation à la diplomatie s'est faite dans l'entre-deux-guerres, et ses premiers pas dans la diplomatie se sont faits dans les années qui ont juste précédé le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et bien évidemment, après toute la période qui a suivi 1945 et qui a été cette période passionnante de la mise en place d'un nouvel ordre international cette période aussi de la fin des colonies françaises pour notre pays, l'entrée dans l'Europe, tout ça était une période passionnante et toute cette génération, que ce soit mon père ou les grands diplomates que j'ai connus dans cette maison et qui travaillaient encore quand je suis entré, toute cette génération nous a appris beaucoup de choses sur ce qu'étaient les grands rapports de force sur la scène internationale. Quelles étaient les grandes tendances qu'il fallait prendre en compte, comment se positionner. Je trouve que ça, c'était très utile pour la formation du jeune diplomate que j'étais.
Que vous ne vouliez pas forcément être au départ en même temps, Pierre Vimon. Vous vous rêviez autre que diplomate, plutôt journaliste, même plutôt acteur.
Oui, c'est-à-dire comme tous les adolescents, j'ai rêvé de faire autre chose. Il se trouve que je suis dans une famille où il y a beaucoup de diplomates. Mon père était diplomate, l'un de mes beaux-frères diplomate aussi. J'avais un oncle diplomate. Donc forcément, quand on a 18, 20 ans, on se dit, j'ai peut-être commencé à faire autre chose. Et donc, bien évidemment, je rêvais d'autres aventures. En effet, le théâtre, le journalisme, la musique. Mais en définitive, et parce que j'ai d'abord fait des études assez sages, hein, Sciences Po, le droit, puis l'ENA, et puis parce que mes parents, je pense, ont eu cette intelligence de me laisser rêver de ce que je voulais faire sans essayer à tout prix de m'imposer leur choix, et ils ont pensé que je reviendrais peut-être dans un chemin plus ordonné, plus sage, entre guillemets, moins aventureux que les autres carrières qui me tentaient. Et finalement, ils avaient raison. Je suis revenu
à la sagesse.
Vers la diplomatie. Je ne crois pas que c'est forcément la sagesse, mais c'est peut-être plus simplement plus rassurant et plus confortable.
Jean-Louis Barrault était pourtant un ami de la famille, non ?
Pas vraiment, mais mes parents, dans leur pérégrination diplomatique, avaient en particulier à une époque, étaient en poste au Brésil. Je les ai accompagnés, mais j'étais tout petit, j'ai plus grand souvenir. Plus tard aussi au Mexique. Et donc, on voyait passer à l'époque beaucoup de troupes françaises de théâtre qui tournaient à travers le monde, la Comédie française, la troupe de Jean-Louis Barrault. Et donc, c'était l'occasion de connaître ces gens. Et
qui passaient par l'ambassade à ce moment-là, vous voulez dire, lors de leur voyage.
Ça paraît un peu désuet aujourd'hui, mais ils passaient par l'ambassade, on les recevait pour une grande réception. Je me souviens même que la Comédie française au Mexique a joué le bourgeois gentilhomme, et on m'a demandé, avec d'autres camarades du lycée français de Mexico, d'être des figurants. Donc, j'ai fait un valet quelque part qui part en courant et voilà, quelques secondes de sur la scène, et c'est peut-être ça qui m'avait donné une très forte envie de continuer.
Vous adoriez le café-théâtre, en particulier le Mime Étienne de Croux.
Oui.
Vous jouiez de la guitare.
Oui, c'est ça.
Mais ça s'est perdu au fil du temps.
Oui, c'est surtout, je me souviens d'un professeur à Sciences Po, parce que dans une des ce truc de café-théâtre que j'ai fait, il y avait même eu une petite critique, assez gentille d'ailleurs, dans un journal, et un professeur m'avait dit, écoutez, c'était à l'époque que je préparais l'ENA, m'avait dit, écoutez, Pierre Vimont, il faut choisir. Ou vous préparez l'ENA sérieusement, ou vous faites du café-théâtre, mais il faut choisir. Et finalement, je me suis dit qu'il avait peut-être raison, et j'ai choisi de continuer à préparer l'ENA.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, comme sentiment de cette enfance nomade, puisque vous parliez du Brésil, vous parliez du Mexique, en fait vous êtes né en Tunisie, hein, le 15 juin 1949, Pierre Vimont, mais vous êtes très vite parti en Suisse, puis il y a eu les États-Unis, des allers-retours à Paris. Qu'est-ce que vous gardez? C'est comme les enfants de diplomates. De temps en temps, on dit, ils ont été chahutés, bousculés, puis d'autres disent, en même temps, ça ouvre à beaucoup de richesses du monde.
Oui, ce sont des expériences personnelles qui appartiennent à chacun. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants diplomates qui ont ressenti ces transhumances avec difficulté, et d'autres qui sont passés à travers tout ça avec le sentiment qu'au contraire c'était un enrichissement. Et moi, c'est plutôt c'est mon regard. C'est-à-dire, je suis au fond assez reconnaissant à mes parents de nous avoir demandé de les accompagner partout, parce qu'ils auraient pu aussi faire le choix de nous laisser, c'est moi et mes deux sœurs, en pension à Paris. Mais ils ont préféré nous faire voyager avec eux. Et j'en ai retiré le sentiment d'une connaissance forcément partielle du monde, mais d'une connaissance du monde très utile. J'ai passé 3 ou 4 ans aux États-Unis, 2 ans au Mexique, et en particulier dans ces postes-là, parce que c'était à l'époque où j'étais soit jeune garçon, soit adolescent. C'était une manière de se former, d'écouter les autres cultures, de comprendre que d'autres pouvaient être différents de soi. Et ça, je trouve que ça a été très utile. Je dis souvent qu'au fond, cette vie à mes parents était une première façon d'entrer déjà dans le métier de diplomate, même si c'était de manière indirecte, mais que ça m'a aidé à trouver ces qualités d'écoute qui étaient, à mon avis, nécessaires ensuite dans ce métier.
Savoir écouter, peut-être savoir observer aussi. Vous le regardiez travailler, votre père ?
Oui, même si c'était assez loin de ma vie quotidienne, hein, il était au travail toute la journée, je ne le voyais que le soir. Mais j'ai observé, oui, un peu. Et j'ai écouté aussi ce qu'il me racontait, en particulier sur les premières années de la construction européenne, puisqu'ensuite j'ai beaucoup travaillé sur les affaires européennes. J'ai toujours gardé en tête les observations qu'il faisait ou les remarques souvent très pertinentes sur la manière dont s'était fait l'Europe au départ. Et pour des gens qui avaient traversé la Deuxième Guerre mondiale ou qui avaient même connu très jeune la Première Guerre mondiale, l'importance de ce projet européen pour éviter la guerre. Et on voit bien aujourd'hui combien l'essence même de ce projet est profondément bouleversée par ce qui arrive en Ukraine.
Votre père a aussi travaillé en France entre les années 58 et 65, si je ne m'abuse. Il gérait ce qu'on appelle dans le jargon diplomate le personnel.
Oui, c'est drôle.
Pendant le mandat de Maurice Couve de Murville, qui était le premier ministre des Affaires étrangères sous De Gaulle. Et là, vous l'avez vu au travail.
Oui, je l'ai vu au travail, en particulier parce que il ramenait souvent le soir ses dossiers, vous savez, ces questions lancinantes au sein du ministère des Affaires étrangères, où affecter un tel, comment l'aider à trouver un poste qui convient à peu près à ses qualités, etc. Et je voyais bien que mon père se débattait tous les soirs dans les affres de ses nominations, de ses affectations, et le soin qu'il y mettait, le travail qu'il faisait avec ses principaux collaborateurs. Il m'avait expliqué un jour que tous les soirs, à la fin de leur journée, ils se réunissaient à quelques-uns, espèce de petit cabinet qu'il avait autour de lui, pour échanger leurs impressions sur tel ou tel, comment essayer de lui trouver une affectation qui puisse correspondre à ses qualités ou à ses défauts éventuellement. Et je trouvais que c'était un peu un sacerdoce en réalité. Et je trouvais ça assez étonnant.
Étonnant, ça veut dire quoi? Parce que sacerdoce, on peut dire, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer? Vous avez utilisé le mot affre aussi.
Parce que
c'est quand on a 15 ans, hein, c'est à peu près ces années-là, oui. 10, 15 ans, 20 ans même après, on a envie de cette vie-là, de sacerdoce.
Oui, parce que, bon, en même temps, j'avais envie de cette vie qui n'est pas toujours consacrée aux nominations des uns ou des autres, même si quand j'ai retrouvé le poste de directeur de cabinet pour trois ministres, c'est aussi une des activités qu'il faut faire de manière permanente. Mais je dis c'est difficile parce que si vous voulez, dans ce ministère, chaque diplomate est assez conscient de ses qualités et estime qu'il a le droit. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens estiment avoir des droits et pas forcément des devoirs. Et donc, tout le monde estime avoir le droit à un beau poste. Et les beaux postes, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il faut arriver à travailler intelligemment pour convaincre les uns ou les autres qu'ils n'ont peut-être pas le poste qu'ils souhaitaient au départ, que ça viendra peut-être plus tard, qu'une carrière diplomatique, ça se fait sur de longues années, qu'il faut accepter des hauts et des bas. C'est tout ça un peu qu'il faut faire. Et donc, j'ai gardé de ce travail de mon père le sentiment que oui, c'était un travail difficile qui pouvait vous prendre même une partie de votre temps de loisir. Et au fond, je me rends compte que quelque part, au fond de moi-même, j'ai imité mon père. En passant beaucoup de temps dans ce ministère, beaucoup de nuits, on me fait cette réputation d'être quelqu'un qui travaille tard, mais c'était pas par plaisir. C'était
par nécessité.
Par nécessité.
Et justement, peut-être par devoir. Peut-être. Avant ces nuits difficiles dans le ministère, Pierre Bimont, il y a peut-être eu des nuits difficiles quand vous étiez tout jeune, puisque vous étiez à Paris. Je crois que vous étiez seul à ce moment-là, en mai 68. Mai 68, vous aviez 19 ans.
Ouais.
Quel souvenir avez-vous de cette période?
Une période assez fascinante en réalité. D'abord parce que elle est intervenue au mois de mai, c'est-à-dire au moment où on devait passer nos examens. Donc tout ça a été suspendu. Donc il y avait une sorte de liberté. C'était un peu l'école buissonnière. Et au fond, comparé à ce qu'on peut vivre aujourd'hui comme troubles publics, comme grèves, comme manifestations sociales souvent très tendues, au fond, le souvenir que j'ai de mai 68, mais c'est peut-être, je repeins avec des couleurs bienveillantes cette période, mais il m'a semblé que il y avait bien évidemment de la tension, parfois même de la tension assez forte, mais qu'il y avait aussi une espèce d'entrain, d'enthousiasme, et on a beaucoup parlé de l'humour de mai 68, il y avait quelque chose que je ne retrouve plus aujourd'hui dans beaucoup de ces manifestations. Et peut-être est-ce encore la nostalgie du passé qui me porte à cela, mais je n'ai pas vécu cela comme une période difficile, mais plutôt comme, là encore, peut-être un éveil à des questions politiques et sociales importantes. Mais je n'ai pas ressenti, par exemple, l'impression de confrontation violente et antagonistique comme je l'ai vu au moment des gilets jaunes, par exemple. J'ai trouvé que c'était une atmosphère tout à fait différente. On a souvent mis en avant d'ailleurs aussi les qualités du préfet de police de l'époque qui avait réussi à éviter que ces confrontations ne tournent à de fortes violences. Oui, c'est vrai, au fond, ça a été géré même du côté des forces de l'ordre de manière, je ne dirais pas apaisée, mais de manière moins violente qu'aujourd'hui.
Vous parlez d'un éveil à la politique. Est-ce que cet éveil, vous l'avez aussi ressenti lors de vos études? Alors je rappelle, hein, le droit, Sciences Po, l'ENA, promotion André Malraux, 1977. Est-ce que quand on sort de l'ENA, Pierre Vimont, on est formé à être diplomate?
Pas du tout. Pas du tout, je crois. Et c'est une école que je n'ai pas beaucoup appréciée, comme la plupart des élèves qui sont passés par l'ENA. L'immense mérite de l'ENA, à mon avis, c'était les stages qu'on faisait. Et j'avais demandé à faire un stage long en ambassade. On m'a envoyé d'ailleurs à Téhéran, en Iran. Et j'avais trouvé ça, alors là, pour le coup, tout à fait passionnant. Puis, mon stage court en préfecture, dans ce qui s'appelait à l'époque les Côtes du Nord, et qui s'appelle aujourd'hui les Côtes d'Armor, à Saint-Brieuc. Et là aussi, pour le français fils de diplomate, qui avait quand même beaucoup vécu à l'étranger, passer quelques mois dans un département français, c'était aussi extrêmement utile. Donc ça, j'ai trouvé ça très formateur. Les études proprement dites, l'enseignement de l'ENA, à l'époque, nous étions à Paris. Je n'ai pas honnêtement appris grand-chose. Et ce que j'ai pu apprendre après sur la diplomatie, c'est sur le terrain, au jour le jour. Quelqu'un m'a d'ailleurs fait un jour une réflexion que je trouvais assez juste. C'est le jour où vous êtes nommé ambassadeur, vous vous trouvez tout d'un coup investi dans une fonction que vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de préparer. Sauf à regarder vos ambassadeurs avec lesquels vous avez travaillé et à prendre quelques leçons à leur écoute en les regardant travailler. C'est finalement comme ça qu'on apprend le métier de diplomate. Et on se sent très seul au début quand on est nommé ambassadeur. Quand vous êtes nommé ambassadeur, tout d'un coup, tout le monde dans votre ambassade attend de vous que vous disiez ce qu'il faut faire, etc. Alors vous vous servez de votre expérience que vous avez pu avoir avant. Mais comme vous n'avez jamais été ambassadeur, que c'est la première fois que vous exercez ce métier, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et vous essayez de vous rattraper en vous souvenant de ce qu'ont fait vos prédécesseurs, de ce qu'ont fait les ambassadeurs avec lesquels vous avez travaillé, et en essayant tant bien que mal de trouver votre chemin comme ça.
Et est-ce que vous continuiez de demander conseil à votre père? Votre père est mort en 2002, donc il a accompagné très longtemps votre carrière. Justement, est-ce que lui aussi faisait partie des gens, des personnalités, des figures référentes pour vous?
Oui, c'est vrai, mais c'était... moins sur le métier proprement dit que plutôt sur ses analyses de politique étrangère, sa vision et son analyse de la géopolitique mondiale. C'était plutôt sur ce terrain-là que je lui demandais conseil. Son métier, oui, je lui ai demandé de temps en temps et je regrette un peu maintenant de ne pas avoir davantage parlé du métier avec lui, en effet. Je pense que ça aurait été... sûrement très utile pour me permettre d'avancer dans ce métier.
Au final, Pierre Vimont, sur la transmission que vous a léguée votre père, Que diriez-vous à part ce don d'écoute, savoir écouter, peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, apprendre à travailler d'une certaine façon, parce que vous vous êtes rappelé quand vous étiez directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères que c'était bien de faire un point le soir avec votre équipe, comme l'avait fait votre père. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Par exemple, vous travaillez longtemps, assidûment dans un même endroit. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que vous tenez de votre père ?
Oui, même s'il a pas mal bougé à certaines époques, mais vous citiez l'époque où il a été directeur du personnel, il a été 7 ans de suite directeur du personnel. Mais donc cette habitude de rester assez longtemps dans un poste, oui, ça m'a beaucoup inspiré, en tout cas moi-même. Mais peut-être derrière tout ça, c'était un peu cette assez grande rigueur morale, je trouve. C'est-à-dire l'idée que on restait longtemps dans le poste dans lequel on était, on ne demandait rien, on ne demandait pas de poste. Et je n'ai jamais demandé un poste dans ma vie. Alors, j'ai scrupule à dire cela parce qu'on m'a toujours été, on est toujours venu me voir et me proposer des postes qui étaient intéressants. Toute la raison pour laquelle, comme vous le soulignez vous-même, j'ai toujours répondu oui. Mais je n'ai jamais demandé un poste. Même au sortir de ma longue errance dans 3 cabinets ministériels, je m'étais dit, et d'ailleurs c'était quelque chose que mon père m'avait dit, c'est quand on est dans un cabinet ministériel, on ne demande rien à la sortie. On attend qu'on vous le propose. Donc là encore, j'ai eu beaucoup de chance, on m'a proposé d'aller à Washington, donc j'aurais tort de me plaindre, mais je ne l'avais pas demandé. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le cabinet d'Elisabeth Guigou, je n'ai rien demandé. Alors on m'a fait quelques propositions, dont une particulièrement intéressante pendant quelques mois, d'être membre du jury du concours d'entrée de l'ENA, où j'ai appris des tas de choses d'ailleurs, et puis ensuite je suis reparti dans l'administration centrale. Mais je trouve que quand on sert l'État, on ne demande pas, on attend qu'on vienne vous proposer. Et ça, je crois que je l'ai hérité de mon père.
C'était un bon diplomate, votre père, vous pensez ?
Moi, je le pense, mais c'est pas à moi de le dire. Je suis un peu...
Jugé parti,
oui.
Vous avez commencé, en tout cas, Pierre Vimont, par les qualités requises d'un diplomate, ce premier entretien. Ben, je vous propose de continuer demain cet entretien, cette série, en nous penchant sur le métier de diplomate. Qu'est-ce qu'être diplomate ? Nous verrons cela demain. Merci et bonne soirée.
Merci à vous et à demain.
C'était À Voix Nue avec le diplomate Pierre Vimont, chargé de programme Daphna Abgral, prise de son Loïc Duros, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.